culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à toi, chère auditrice, cher auditeur. Voilà un bon moment que je ne t'avais pas souhaité la bienvenue. J'ai de la joie à le faire aujourd'hui, alors que nous commençons le culte espoir. Je me tourne vers mes amis chroniqueurs qui m'ont rejointe pour ce temps de partage et qui vous ont préparé des chroniques tout à fait pertinentes pour votre vie. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Mildred.
Salut Marina.
Est-ce que vous allez bien?
En forme.
Ça va? Prêt à démarrer ce culte?
Oui.
Et oui, on se réjouit.
Extra! Alors c'est l'été, hein, cher auditeur, chère auditrice, tu es peut-être en vacances, maison, famille, au soleil d'une destination sympathique.
Oh, tu m'en fais rêver.
Eh bien, nous sommes toujours là pour accompagner ta marche avec Dieu. Nous accueillons aujourd'hui dans ce studio Edith Gay. Bonjour Edith.
Bonjour à tous.
Merci d'être là, on se connaît depuis bien longtemps.
Ouais.
Hein? Edith, tu es une femme dynamique, tu es mariée, tu as deux enfants, tu as même des petits-enfants maintenant. Tu es cadre administratif dans un établissement pour adultes en situation de handicap. Je te sais sensible à la cause des démunis. Tu étais engagée de longue date auprès de l'association ADRA. Mmh. Tu es ancien d'église, tu aimes chanter.
Ben oui.
Eh ouais, c'est pas mal. Hein. Tu as beaucoup servi aussi dans la jeunesse. Et tout récemment, tu es nommée trésorière de la Fédération Adventiste du Sud de la France.
Tout à fait.
En tout cas, on prie et on te souhaite que tu sois particulièrement bénie dans ce nouveau ministère qui s'ouvre à toi.
Merci.
Edith, quel thème as-tu choisi de nous partager aujourd'hui?
Alors c'était difficile d'appeler ça un thème parce que pour moi c'était vraiment la redécouverte d'un personnage, un personnage que vous connaissez bien, qui s'appelle Thomas, ce personnage de la Bible, mais qui, en relisant le texte qui les concerne, en tout cas qu'on va voir ce matin, je me dis, est-ce qu'on le connaît si bien que ça, ce Thomas? Et je trouvais intéressant de se dire, ben, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre aujourd'hui, alors qu'on connaît peut-être le mauvais côté de Thomas, mais il y a d'autres côtés intéressants à développer ce matin.
Ah, alors nous allons vivre ensemble
ça donne envie, hein
un temps béni, rafraîchissant. Moi, j'ai hâte, hein, de savoir ce qu'on va découvrir de ce Thomas. Merci. Alors j'aime particulièrement la chronique « Dieu dans ma semaine hein, » qui nous permet de partager, chers auditeurs, chères auditrices, de quelle manière nous vivons les défis de notre quotidien avec le soutien de Dieu. Et c'est vrai que c'est toujours chouette de se dire combien on vit des choses super avec Dieu, comment il agit dans notre vie, comment on s'en sort dans les difficultés de notre quotidien. Oui, mais des fois, c'est pas si simple. Et j'avais envie de te partager aujourd'hui un petit bout de mon quotidien qui est loin d'être facile en ce moment. Je traverse depuis deux mois une situation assez complexe au niveau de mon travail. Je suis de retour après un congé maternité et puis j'ai un collègue arrivé sur mon secteur juste avant mon départ avec lequel je travaille au quotidien. Problème, ça passe pas. Pas trop, en fait, avec ce collègue. Les échanges informels se font tout à fait bien. C'est plus au niveau des valeurs travail que ça pose souci, valeurs personnelles peut-être aussi que ça coince. Partage pas vraiment ces mêmes valeurs, l'intégrité comptable, la transparence dans des dossiers traités, enfin c'est un petit peu compliqué.
Moi,
et vous savez comme
même
moi
très compliqué.
Ouais, comment c'est difficile hein de rendre cohérent des différences en fait de fondamentales de valeurs hein qui fondent chaque être humain, en tout cas quand ces valeurs se entrechoquent, c'est difficile. Et c'est vrai que j'ai souvent demandé à Dieu comment est-ce qu'on allait ensemble gérer cette situation, ce défi, comment maintenir un échange courtois en fait avec un collègue, comment trouver une manière de travailler ensemble alors que nous sommes radicalement différents. Alors, j'ai toujours pas trouvé la solution.
Ah bah Marina, tu me déçois.
Malgré
là.
Pas mal de tentatives dans mon quotidien, mais c'est vrai que ça devient un peu usant. Mm-hmm. Je me rends compte que les différences surviennent quand même régulièrement. Ça amène aussi peut-être pour l'équipe en place un climat qui peut être parfois dégradé. Et puis chacun reste campé sur ses valeurs, quoi, qu'il défend. Et je me dis, mais ça va durer combien de temps cette histoire? C'est pas toujours évident. Mais pour autant, Je sens la présence de Dieu dans mon quotidien et dans ces temps troublés, hein, quand certains jours deviennent plus difficiles, je trouve une force auprès de Dieu. Je lui partage ce fardeau, ces difficultés, je lui confie en fait ma journée. Et puis j'ai vraiment le sentiment que ça devient plus léger parce que j'ai pu lui partager quelque chose et puis j'apprends. Alors c'est dur, hein, mais j'apprends. L'Éternel m'a jamais laissé tomber tout au long de ma vie et je sais que s'il a pu me donner des chances à ma vie qui est faite aussi d'erreurs, hein, je me dis je peux aussi apprendre à donner des nouvelles chances à ma collaboration avec ce collègue, à peut-être pas trop me braquer, à maintenir un lien informel important aussi, à dépasser cette adversité qui devient parfois pesante et trouver avec lui en tout cas des points d'accord existants, même s'ils sont assez minces pour l'instant, je me dis bah, peut-être qu'on va continuer à chercher la meilleure voie ensemble pour œuvrer dans un travail partagé. Alors voilà, cher auditeur, auditrice, si tu es toi aussi dans une situation qui est similaire, pas simple, hein, comme on dit, si tu es dans le dur, c'est comme ça qu'on dit, si tu ne trouves pas de solution, moi je t'invite à le faire comme je le fais, remettre cette difficulté à Dieu, t'approcher de Dieu, lui confier ta journée, lui confier ton ressenti, ses émotions qui te traversent, les impressions que tu peux avoir, ta douleur, et demande-lui qu'il te donne un endroit en tout cas pour souffler un peu, pour te ressourcer, et il le fera. En tout cas, courage pour ta semaine.
Parfois, c'est difficile de se tourner vers Dieu. Et surtout, quand nous sommes loin de lui, nous sommes dans le péché. Nous pensons que Dieu ne peut plus rien pour nous. Mais c'est tout le contraire. Dieu demande qu'on se tourne vers lui. La promesse du jour se trouve dans le livre d'Actes aux Apôtres, chapitre 3, versets 19-20. Dieu nous dit, si nous changeons et si nous on se tourne vers lui, il nous donnera du repos et il nous enverra le Messie. Il est écrit, verset 19, « Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Et voici la promesse au verset 20. « Alors le Seigneur nous accordera du temps de repos et nous enverra celui qui vous est destiné, comme le Messie, Jésus. » Dieu nous appelle au changement. Il faut se retourner vers lui, quelle que soit notre situation.
Donner une seconde chance ne fait pas forcément partie de la nature humaine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Ah ouais.
Parfois, on ne laisse même pas l'opportunité de cette seconde chance, pensant qu'un retour est inimaginable. Mais Dieu montre qu'il y a de retours possibles. Son amour et sa tolérance n'ont rien à voir avec la conception humaine que nous avons. Alors, cher auditeur, je t'invite à écouter le chanteur Bill Wright qui parle de ces situations pleinement humaines où Dieu nous ouvre le chemin.
Ce matin, je me lève avec la boule au ventre, car hier, je me suis vautré dans le péché. Je ne vis plus le rêve, car au fil du temps, la source d'eau vive en moi a été desséchée. J'ai vraiment besoin de ton aide, Seigneur, c'est encore moi.
Seigneur, c'est encore moi.
Ne me rejette pas,
Seigneur, relève-moi.
J'ai vraiment besoin de ton aide, Seigneur, c'est encore moi. Jésus, relève-moi. Relève-moi.
Yo. Yo. Je croyais te connaître, mais je ne te connais pas. D'habitude, c'est toi, mes soirs, je fais le premier pas. Tu m'as oint, mais par mes fautes, je me sens en inhabilité. Je me sens vide, mais j'ai toutes ces responsabilités. Au-delà de la famille, il y a le corps de Christ. J'aimerais te plaire, mais dans mon cœur, il y a encore du fils. J'ai tellement peur de faire ton œuvre et d'être écarté d'emblée. D'emmener ton peuple à Canaan sans pouvoir y entrer. J'ai plus le choix car cette fois-ci je sais que je joue la survie. Car avoir Christ et être tolérant face aux vices, c'est le signe que ton cœur s'endurcit. Je ne veux pas être l'abri d'un esprit résistant. Je veux que le Saint-Esprit soit le seul résident. On dit que t'es riche en bonté. J'ai la foi que si je m'accroche à toi malgré mon faux départ, je peux finir en beauté. Que ta colère envers moi, papa, ne se déclenche pas. Aie compassion de moi, Seigneur, ne me retranche pas. Je sais que je t'ai déçu. Car on peut rembourser une dette, mais pas le sang de Jésus. Les gens m'aiment parce que je te prêche, Seigneur. Mais m'aimeraient-ils toujours autant si les vices cachés de mon cœur étaient à l'extérieur? Le péché t'éloigne de moi et j'ai du mal sans toi. Du mal à croire au verset 12 à 13 du psaume 103. Pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi m'as-tu aimé? Pourquoi es-tu mort pour moi? Pourquoi as-tu saigné? Je me sens incapable de te plaire même quand j'essaie d'être docile. Mais Romains 7, 19, Paul le vivait aussi. Pourtant la Bible dit que tu m'aimes encore à fond la caisse. Mais j'ai du mal à croire que j'en vaux encore la peine. La culpabilité ne cesse de me ronger. Parce que je retombe à chaque fois que je décide de me ranger. Vais-je un jour changer? Ou vais-je un jour vivre Christ? Ou suis-je condamné à toujours vivre triste? Mais le secours me vient de là-haut. Chaque fois tu ne cesses de me repositionner. Waouh, Lucifer est tombé, t'es pas descendu. Et pour nos fautes à Golgotha, tu ne t'es pas défendu. Au-dedans de moi, je suis à deux doigts du renoncement. Une voix en moi me dit vas-y, car cette vie n'est pas la tienne. Mais Dieu c'est la fin avant son commencement. Alors pourquoi m'aurait-il choisi si je n'en valais pas la peine? Oh, sois le seul Seigneur, l'adorer en esprit, en vérité, sans cesse c'est l'heure. Jésus revient et tout le monde a peur. Mais gloire à Dieu, la fin du monde est un sujet de joie pour tous les vrais adorateurs. T'es citoyen du ciel, alors travaille avec zèle. Te contente pas de faire ton taf, mais excelle. Oui, donne la gloire au Père dans ta façon de faire. Que vive Christ au quotidien, soit ta façon de plaire. Sois en paix, mon frère, ma sœur, car c'est Christ qui t'a oint. S'il y a l'ombre de la mort, c'est que la lumière n'est pas loin. Alors laisse le jour suivant prendre soin du lendemain. Si Christ est le bon berger, tu ne manqueras de rien. T'inquiète, Dieu ne fait pas de criss-cross. Mais va falloir que tu diminues afin que Christ croisse. Laisse-le prendre la place, car Satan qui s'est cru si fort ne pourra jamais tenir face au poteau cruciforme.
C'est chouette comme chanson, hein?
Ouais.
J'ai bien aimé découvrir ce chanteur-là qui parle d'une façon tellement claire. Alors, on va passer au témoignage. Et pour le témoignage d'aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Sophie. Elle nous parle d'une expérience où elle a vécu ce fameux décrochage spirituel. Mais je ne t'en dis pas plus, je te laisse plutôt découvrir.
Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Sophie, j'ai 40 ans. Je suis infirmière depuis maintenant presque 15 ans. Je suis dans la région depuis 4 ans. Voilà, donc j'avais envie un petit peu de vous expliquer comment j'ai rencontré Dieu réellement. En fait, j'ai rencontré Dieu il y a 3 ans dans ma vie. Dès que je l'ai rencontré, je me suis engagée rapidement avec lui. C'est-à-dire que j'ai décidé de me faire baptiser à l'église de Vivo. En fait, je connais l'église adventiste depuis mon enfance. Mon père était pasteur. Il était même directeur de la colonie Moulin de l'Hérole, dans le sud de la France. Puis, il s'est occupé pendant des années de personnes ayant des problèmes de toxicomanie.
Okay.
Donc, j'ai fréquenté l'église depuis mon enfance jusqu'à mes 15 ans. Parce qu'en fait, mes parents m'y ont obligée. Okay. Et puis, pendant mon enfance, j'ai beaucoup participé à des colonies. Je faisais partie des tisons, des expos, donc au sein de l'église. Voilà, des scouts, comme on dit dans notre église. Et puis, pendant mon enfance, mes parents sont divorcés. J'avais l'âge de 7 ans. Et j'ai beaucoup souffert de cette séparation parce que je ne comprenais pas les valeurs qu'on m'inculquait à l'église. L'amour de Jésus, l'union dans l'amour, etc. Et puis, mes parents qui se sont séparés. Et pour moi, ça a fait un bug dans mon cerveau. Et puis, je posais souvent des questions à mes parents parce que j'ai perdu un frère à l'âge de 2 mois qui aurait eu 2 ans de plus que moi, que je n'ai pas connu. Et je ne comprenais pas comment on peut dire qu'un Dieu si aimant puisse laisser partir un petit bébé comme ça, pourquoi mes parents étaient divorcés. Enfin voilà, j'avais plein de questions en fait que je posais à mes parents. Et je ne comprenais pas le sens de leurs réponses en fait. Je me disais, mais comment ils peuvent aimer un Dieu comme ça quoi? Voilà, donc après je suis partie, j'ai fait mes études à Lyon, j'ai fait ma petite vie, j'ai rencontré plein de copains, dans le monde notamment de la musique électro.
Okay.
Je suis restée pendant 5 ans avec un ancien DJ. Et puis, donc là, c'était les soirées, la drogue, tout ce qui va avec en fait. Et pendant des années, j'ai lutté pour ne pas en prendre. J'avais toujours cette petite voix qui me disait, mais... n'y va pas, ne tente pas, ça sert à rien, c'est illusoire. Et puis je m'amusais très bien en soirée comme ça, sans en fait. Et puis en fait, à force d'être tentée, un jour j'ai succombé à la tentation. Et je ne sais plus, il y a un verset biblique, mais genre, je ne suis pas assez calée pour ça, mais qui dit que justement Dieu, il te laisse aller dans les tentations, mais il ne va pas au-delà de ce que tu peux être. Et en fait, à ce moment-là, donc j'ai tenté et je me suis dit, mais cette chose-là de tenter, je vais en faire quelque chose un jour quand je serai plus vieille, quoi, pour mes enfants. Est-ce que je vais me vanter en disant, moi aussi j'ai fait des soirées, j'ai pris de la drogue. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Et en fait, j'avais cette petite voix qui me disait, aussi peut-être qu'un jour tu vas pouvoir te témoigner dans quelque chose d'une lumière, quoi. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. Donc voilà, j'ai commencé à en prendre tout ça. Puis en fait, c'était la descente aux enfers parce que j'en prenais de plus en plus. Parce que quand j'allais en soirée, il fallait absolument que j'en prenne pour vraiment m'éclater.
C'était un besoin.
C'était un besoin, en fait. Ouais, exactement. C'était devenu un besoin. Alors que j'aimais bien la musique électronique sans, mais du coup, c'est devenu un besoin. Et puis, j'en prenais toujours plus. J'allais sur le Darknet. Alors, c'est des choses pas très jolies sur Internet pour justement pouvoir choper de la drogue, etc. Puis des fois, je prenais ça et je me disais, mais c'était pas moi. J'avais l'impression que j'étais une double personne, quoi.
Tu sentais qu'il manquait quelque chose.
Oui, exactement. Il manquait quelque chose. Et du coup, j'avais cette illusion qu'en prenant de la drogue, en fait, ça te remplissait. Et notamment, ben voilà, la MDMA, qui est une drogue synthétique, qui te procure le bonheur. Ben, en fait, quand j'ai rencontré Dieu et que j'ai rencontré Saint-Esprit, j'ai eu cette même sensation. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Et en fait, avec du recul et une certaine analyse, je me suis dit, mais l'ennemi, il est tellement puissant dans sa folie, qu'il a réussi à imiter la sensation du Saint-Esprit. Sauf qu'une fois que t'as plus la drogue, et ben, t'es déprimé, tu pleures, t'es triste, t'as des idées suicidaires, des idées noires, tu te dévalorises. Et à un moment donné, donc à mes 37 ans, parce que j'ai commencé la drogue à 35 ans. Et en fait, pendant pendant deux ans, j'ai fait que ça, enfin, beaucoup de ça. Puis à mes 37 ans, en fait, je me suis dit, waouh, là, je suis face à un choix à faire. C'est, en gros, soit je continuais à me détruire et je restais dans ma relation avec mon ex comme ça, soit bah, je changeais tout, je quittais tout et changeais de vie, quoi. Mm-hmm. Mais ça veut dire avoir le courage de pouvoir renoncer à tout ce que j'étais en train de vivre. Parce qu'il faut se dire quand même que la fête, quand même, ça fait du bien. Quand même, t'es bien. Quand même, t'es avec des gens qui sont soi-disant heureux. Enfin, voilà, c'est quand même... C'est là le vice de la chose. Et je me suis dit, allez, je quitte tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que je parlais de la drogue, mais je fumais aussi beaucoup de cannabis. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'en parle parce que je suis libre et je sais que Jésus m'a sauvée et qu'il m'a libérée. Mm-hmm. Oui, amen. Mm-hmm. Et du coup, j'en fumais parfois 10 par jour. Mais j'avais tellement honte que j'en parlais pas. Et un jour, ma mère m'avait offert une Bible en 2001. Donc, il y a 18 ans. Elle était dans ma bibliothèque. Et puis, je sais pas, je me suis sentie, je suis allée la chercher, cette Bible. Et je l'ai ouverte. Et je l'ai pas ouverte par hasard. Je l'ai ouverte. Enfin, si, c'était un hasard, mais c'était pas un hasard. Je suis tombée sur Galates 5, 22, qui parle du fruit de l'esprit. Et en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux vivre. Et à partir du moment où j'ai dit ça à voix haute, et ben, j'ai senti le Saint-Esprit rentrer en moi. Et du jour au lendemain, je ne fumais plus. C'est-à-dire que j'avais mon pot de marijuana chez moi.
Et c'était fini.
Et j'ai regardé ce pot, j'ai tout jeté et c'était fini. Mais fini, fini. Mais vraiment. Et là, tout de suite, j'en parle à ma mère, donc, qui est aussi adventiste. Et j'ai dit, écoute, il faut que je rencontre quelqu'un pour en parler. Et donc, elle m'a parlé de Léo parce qu'elle le connaissait. Donc, je suis allée voir Léo, le pasteur.
Et comment ça a été cette rencontre? Parce que ça faisait un moment, est-ce que tu rencontrais encore la communauté quand tu...
Non,
non, mais donc pas c'était du tout. Vraiment une coupure totale.
Ah, mais une coupure totale. Et je me suis dit, j'ai dit à ma mère, écoute, maman, je veux bien voir un pasteur, mais je veux un pasteur cool. Par
parce
un gars.
J'ai un petit peu
c'est
le
ça,
retour.
Ça faisait 20 ans que j'avais quitté l'église, quoi. Et en fait, quand j'ai vu Léo, mais peu importe qui c'était finalement comme pasteur, parce que j'avais tellement Jésus en moi, que du coup, ça m'a... tout s'est ouvert à moi, en fait. Et du coup, Léo m'a dit, viens, si tu veux, tu peux venir à l'église. Je l'ai rencontré, je crois, le jeudi. Il me dit, viens samedi, si tu veux, à Vivo. Et tout. C'est un peu trop tôt, tranquille et tout. Et puis, en fait, le samedi, j'étais déjà à Vivo, quoi.
Ouais.
J'ai fait les études bibliques. Et puis, au bout de 6 mois, je me suis fait baptiser, quoi. Et en fait, ça fait 3 ans que j'ai donné ma vie à Dieu par les eaux du baptême. Et ça fait 3 ans que je suis abondamment bénie. Donc, j'ai rencontré Roberto. Entre deux confinements, c'était sur un site de rencontre chrétien.
D'accord.
Nous nous sommes mariés. Et voilà, donc du coup, nous avons notre bébé qui a maintenant 6 semaines.
C'est
beau. Lorenzo.
Ouais.
Et voilà, nous avons notre appartement. Enfin, voilà, c'est... Et je sais qu'il y aura des épreuves, j'en ai bien conscience. Mm-hmm. Mais je sais que Jésus sera là et qu'il m'aidera à surmonter les choses que j'aurai à surmonter. Et... Voilà, en tout cas, j'avais vraiment envie de témoigner c'est tellement important de rencontrer Jésus et de l'avoir dans sa vie parce que c'est lui qui te donne tout et qui te donne la vraie vie, en fait. Moi, je pense qu'il faut demander à Dieu et puis c'est lui qui te met les bonnes personnes sur ton chemin et si les choses doivent se faire, elles se feront à rencontrer des belles personnes dans l'église ou dans la communauté. Moi, j'ai été très surprise de la communauté adventiste aujourd'hui qui est très ouverte et qui ont vraiment compris le message de Jésus, quoi. Et je ne changerai pas pour rien au monde à la communauté, quoi.
Eh ben, merci Sophie pour ton témoignage très précieux.
Voilà, je t'en prie, à bientôt.
Très touchant ce témoignage ce matin, et ça va rejoindre un petit peu le témoignage en fait qui se trouve dans la parole de Dieu et qui se trouve dans Jean au chapitre 20. Pour ceux qui ont une Bible, eh ben, je vous invite à l'ouvrir chez vous. Les versets choisis sont le verset 19 au verset 25. Et ces versets nous introduisent auprès d'un personnage, comme je le disais tout à l'heure, que nous connaissons bien. Et je suis sûre qu'il nous ressemble, parce qu'il vous ressemble et il me ressemble. Jésus vient un dimanche en soirée dans une maison où se trouvent les disciples et dont les portes sont verrouillées parce qu'ils ont peur. Le texte nous dit « Il se trouva au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté parce qu'il est ressuscité. Et les disciples furent remplis de joie parce qu'ils virent le Seigneur. Puis on nous dit que l'un des 12, Thomas, en l'occurrence, est surnommé le double. Et ça rebondit sur le témoignage que Sophie vient de faire en disant « J'avais l'impression d'avoir une double personnalité ». Ben, Thomas était déjà dans ce cas-là. Mais elle est étonnante, cette précision, à ce moment-là du texte. Mais en effet, le prénom Thomas veut dire « deux parties ». On va garder ça à l'esprit pour plus tard. Thomas n'était pas avec eux ce soir-là. Alors les autres disciples vont aller le chercher, lui dire « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas va dire « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Alors peut-être vous avez connu Dieu vous aussi autrefois, mais c'est de l'histoire ancienne. Peut-être que comme Thomas, vous vivez une saison de votre vie où votre envie d'être proche de Dieu n'est plus tout à fait là. Et pour cause, qu'elle est difficile cette période que nous vivons, parce qu'il y a des interrogations, il y a des peurs, comme les disciples qui avaient peur, parce que le monde autour d'eux était hostile à ce moment-là. Et en même temps, ils avaient vécu tellement de traumatismes. Vous vous rappelez de ce qu'ils ont vécu ? Faisons un petit retour en arrière. Thomas, c'est un apôtre. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui n'était pas motivé pour Dieu. Je vous parle de quelqu'un qui a tout quitté pour suivre Jésus quand même. Il fait partie des 12
qui
ont tout laissé. Eh oui, ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leurs proches, tout. On parle toujours de Thomas comme celui qui a douté. Hein? Je voudrais corriger cela. Avant de douter, c'est un homme de Dieu remarquable, Thomas. Il s'est engagé pour Dieu. Et la première fois qu'on parle de Thomas, c'est un peu plus haut dans Jean au chapitre 11. C'était quelques jours avant. Et Thomas a l'air de quelqu'un de plus lucide que les autres, quelqu'un de méthodique et de rationnel, qui veut comprendre. Alors, il pose beaucoup de questions, Thomas. Et voici qu'il dit dans Jean 11 au verset 16, alors que Jésus vient de leur annoncer qu'il doit mourir, voilà ce qu'il est dit. Thomas, surnommé le double, dit aux disciples « Allons mourir avec Jésus ». C'est-à-dire que Thomas, avant tout le monde, avait compris ce que ça voulait dire de suivre Jésus. Il est prêt à donner sa vie pour Jésus. Thomas était le plus motivé des disciples. Si on lui avait posé la question « Est-ce qu'un jour tu quitteras Jésus ?», il aurait répondu « Jamais ». Et bien ce jour-là, il n'y est plus. Vous savez, quand Jésus avait dit à un moment « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et là, il y a Thomas qui lève la main. Parce qu'il ne comprend pas, il pose une question. Peut-être cela interpelle quelqu'un ce matin. Tu es prêt à aller au bout du monde, mais à condition qu'on t'explique par où faut passer. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et c'est là que Jésus va lui dire, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est moi le chemin, Thomas. C'est moi, » dit Jésus. Sauf qu'il a un problème, Thomas, avec le chemin. Parce qu'il démarrait tranquillement ce chemin, et puis il est passé par un endroit qui s'appelle Gethsémané. Et là, il s'est dit, ah oui, c'est vraiment dur le chemin. Et puis le chemin a pris ensuite une autre rue de Jérusalem. Elle s'appelle la Via Dolorosa. Et là, Thomas se dit, On m'avait dit que ça allait être dur, la vie de chrétien, mais c'est encore pire que prévu. Et puis le chemin a continué de monter, 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 jusqu'à une colline qu'on appelle le Golgotha. Et là, Thomas, sa foi, elle a pris un tel choc à ce moment-là, que lui qui pensait ne jamais craquer, ne jamais décrocher, va décrocher spirituellement. Ce jour-là, il quitte la communion des frères, il quitte sa vie de prière, il se referme. Vous savez, on peut être chrétien depuis des années, et comme Thomas, avoir ce côté double. On est tous des Thomas. Une partie de nous qui va bien et qui veut aller de l'avant dans la foi, et puis une partie de nous qui est moins bien. Une partie de moi veut louer Dieu et l'autre se dit Dieu avec ce que je vis en ce moment. Je pensais à ton témoignage, Marina. Ben là, tu vois, j'ai pas trop envie de louer, tu vois. Une partie de moi veut croire et une partie de moi est en stand-by. Et pour Thomas, ce décrochage, c'est le verset 25 qui dit « Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur !» Et c'est dommage parce que lui vient de rater la réunion la plus importante. Il a été plusieurs fois avec Jésus dans des réunions où il ne se passait pas grand-chose. Mais là, la réunion qu'il ne fallait pas louper, celle où Jésus vient prouver qu'il est ressuscité, il n'est pas là.
Il a loupé.
Et voilà. Comme il est distant, les autres arrivent tout excités avec une joie immense pour lui dire « Jésus est bien vivant !» Et la réponse de Thomas, alors je pense qu'elle nous a toujours tous scotchés pendant notre enfance. « Si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas, je ne croirai pas. » Mais Thomas, c'est presque méchant ça. En tout cas, c'est provocateur, non ? Thomas, c'est toi qui annonçais la bonne nouvelle de Jésus avec tes frères dans tout le pays. C'est toi qui encourageais, c'est toi. Ils essayent d'emmener Thomas vers le haut, mais lui, ça le descend encore plus parce qu'il se sent médiocre. Ça fait ressortir en lui même de la dureté. Et on a tous ces deux parties, et c'est pour ça que Thomas veut dire double. C'est pour cela qu'une partie de nous tire vers le haut et l'autre vers le bas. Et la vie spirituelle, c'est justement laquelle de ces parties nous allons suivre. Alors plutôt que de glisser doucement vers ce genre d'interrogation, si on se penchait plutôt sur comment raccrocher spirituellement. Parce que c'est possible. Et voici comment, parce que ce qui est génial avec Thomas, c'est qu'il va se raccrocher. Ah. Et si tu es un Thomas ce matin, écoute bien, parce que c'est possible. Du verset 26 au verset 28, on nous dit « 8 jours plus tard ». Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et cette fois Thomas était avec eux. Et Jésus dit encore « Que la paix soit avec vous ». Tiens, toujours le même message de la part de Jésus. Ah bien oui, Jésus répète exactement la même chose que 8 jours avant, devant les mêmes personnes, à cette différence près que cette fois, il y en a un de plus. Je me demande si Jésus n'a pas organisé la réunion de ce jour-là juste pour une seule personne.
Ça donne l'impression. Hein?
Ouais. 10 avaient déjà entendu le même message, mais Jésus est revenu le dire pour 1. Est-ce que tu comprends que Jésus est prêt à traverser la galaxie pour une personne qui fait l'effort de revenir vers lui? Parce que tant que tu n'es pas là, ça n'est pas pareil. Alors oui, il peut faire une réunion sans toi, mais Jésus dit « Je suis prêt à la refaire pour que tu sois là. » Parce que je ne veux pas que Thomas ait manqué cela. Si Thomas fait l'effort de revenir, je reviendrai rien que pour lui. Le verset 27, puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et oui, parce que Jésus sait ce qu'a dit Thomas auparavant. Alors attends, ça veut dire que Jésus est aussi là quand je suis à plat spirituellement? Qu'il est encore en train d'écouter alors que j'ai décroché? Qu'il est encore en train de te parler alors que tu cherches à durcir ton cœur? Qu'il est encore en train d'intercéder auprès du Père pour que tu reviennes? Eh bien oui, mieux, il ne se défile pas. Thomas aurait sûrement préféré qu'on n'en parle plus de cette histoire, mais Jésus va aller jusqu'à non seulement ne pas lui reprocher, vous avez remarqué que Jésus ne reproche pas ça, il n'y a pas un seul ton de reproche, mais il va lui laisser mettre son doigt dans la plaie qui ne date que de quelques heures, quelques jours. « Mon Seigneur et mon Dieu, c'est tout ce que Thomas peut dire, tellement il est mal. L'amour de Jésus. Tous ceux qui décrochent, Dieu vous aime tellement. Il vous aime même si vous n'avez pas toujours tenu vos promesses. Thomas, tu te rappelles, tu m'avais dit que tu mourrais pour moi, hein? Et quand Thomas va mettre sa main dans cette plaie de côté, à peine cicatrisée, ça va tout changer pour lui. Parce que c'est la marque de la victoire, de la vie sur la mort et du pardon sur le péché. Et Thomas, qui jusque-là suivait un rabbi, alors certes un des rabbis des meilleurs qu'il ait pu suivre, hein, qu'il ait pu rencontrer, un enseignant et un maître qui faisait même des miracles. Mais ce jour-là, Thomas, lui, il a touché le miracle, lui-même. Il l'a expérimenté, le miracle. Et pour toi, ce serait quoi d'expérimenter Dieu? Alors je te donne un petit tuyau. Essaye de faire quelque chose pour les autres. La Bible n'a de cesse de nous rappeler que faire pour les autres, c'est faire pour Dieu. Que ce soit avec ton temps, avec ton argent, mais s'il te plaît, fais quelque chose pour Dieu. Un service pour Dieu, le fait de faire quelque chose, de mettre votre foi en action, ça vous la garde en vie. Et au fait, vous savez ce qu'est devenu Thomas ?
Qu'est-ce qu'il a devenu ?
Alors non.
C'est vrai, on ne sait pas toujours l'histoire, on en reste à ça. Alors, selon les recherches, il n'y a pas beaucoup d'apôtres ou de disciples dont on sait ce qu'ils ont évidemment fait ensuite. Certains, on sait jusqu'où ils sont allés. Mm-hmm. Et c'est le cas de Thomas. Thomas, l'homme qui a douté, est parti de Jérusalem, a traversé de nombreux pays, des milliers de kilomètres, parce que ça correspond un peu à la traversée de l'Iran à pied, puis l'Irak à pied, puis le sud de l'Afghanistan à pied, pour arriver en Inde.
Il a terminé
sa vie là-bas, Thomas.
Il était motivé, hein, après tout ça.
Mais c'est incroyable, justement. Celui qui avait décroché de tous les disciples, c'est celui qui est allé le plus loin de ce qu'on sait. Aucun disciple n'est allé aussi loin avec Jésus que celui sur lequel on n'aurait pas payé, pas vraiment pas parié 2 francs.
Ah ouais, c'est ça.
Et c'est la beauté de l'évangile qui mise sur celui qui peut avoir des relâchements spirituels, lui donner une seconde chance et d'aller au bout du monde pour Jésus. Vous connaissiez Thomas qui avait douté, mais il est devenu Thomas qui est allé au bout du monde pour Jésus. Alors ayons un peu de respect pour ce Thomas, s'il vous plaît, ce matin. Parce que c'est peut-être votre voisin, peut-être un ami, ou peut-être toi.
Chers amis qui nous écoutent, si tu viens de nous rejoindre, tu te trouves au Culte Espoir. Et nous avons abordé le thème de la deuxième chance avec Edith Gay. Depuis quelque temps, on a pour coutume de réagir à chaud sur le message. Et voilà que l'heure est arrivée, les amis. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, est-ce que vous avez déjà décroché spirituellement? Ou encore, est-ce que vous préférez plutôt parler de ce qu'Edith nous a partagé?
C'est pas le vrai décrochage comme on a vu par témoignage, mais j'étais à l'église, donc j'étais jeune, je participais de tous les camps, tout ça, j'étais vraiment actif. Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je suis à l'église? Donc j'étais à l'église, mais juste pour les amis. Mm-hmm. Et c'est à un moment que j'ai eu le choix, j'ai déjà marié, tout ça, mais pourquoi je suis à l'église? Pourquoi je viens?
Tu t'es questionné,
oui,
en fait.
Oui, tout à fait, parce que qu'est-ce que ça fait? Et là, c'est là que on peut dire que j'étais un peu décrochage, parce que j'étais, mais j'étais pas dedans. Je me suis dit, non, je veux quelque chose d'autre. Je veux plus juste le fun. Je veux quelque chose de différent.
Tu te ressaisis. Mais oui. C'est vrai que ça me fait penser aussi au témoignage de Sophie tout à l'heure, quand elle le dit à haute voix. Elle l'admet. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut qu'on reconnaisse, qu'on admette qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que comme tu dis, hein, on peut quelque part mener une vie plutôt correcte. On va dire, je ne commets pas de grosses fautes, de gros péchés. Mais on peut se sentir éloigné, n'est pas vraiment connecté à Dieu.
Moi, ce que j'aime particulièrement dans ces décrochages, hein, j'en ai vécu aussi quand j'étais jeune, c'est toujours ce sentiment que ça va être trop difficile de revenir, en fait. On se dit, mais on n'est pas digne, on ne mérite pas, en fait, le pardon de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il va penser? Puis, qu'est-ce que les autres, surtout, vont penser? Alors, on va revenir à l'église, les gens savent ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, ce que je dis, comment je me comporte. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arrêter, en fait, hein, pour
le regard de l'autre,
pour revenir, en fait, à Dieu. Et j'aime beaucoup ce que tu nous as partagé, Edith, dans cette image de ce Jésus qui ne juge pas, en fait. À aucun moment, il apparaît avec une phrase ou quoi que ce soit de jugement, mais toujours dans l'accueil, toujours dans cet amour incroyable, en fait, qu'on ne peut pas décrire et qu'on ne peut absolument pas comprendre, hein, en tant qu'humain, parce que nous, on va forcément se dire, alors si tu reviens à l'église, il faut une demande de pardon officielle, il faut bref, presque faire pénitence, en fait, pour ensuite être digne d'être accepté dans une église ou autre. Et puis, en fait, Jésus ne fonctionne pas du tout comme ça.
Mais
Jésus,
oui,
il attend.
Ouais.
Il est toujours disponible, il est toujours accueillant, il souhaite ton retour.
Il
prie ton retour, en fait. Je trouve ça juste hallucinant, cet amour incroyable de ce Jésus. Ouais.
Voilà. L'exemple de Thomas, là, c'est que Jésus, il est prêt à même refaire une deuxième fois être là. Et surtout, chacun est différent. Chacun a besoin d'un pardon différent.
Parfois, il s'adapte à chaque personne.
Et là, l'idée, juste, il a entendu ce que Thomas disait. Il dit, viens, touche, maman. Fais ce que
tu as
demandé.
C'est ça dont tu as besoin.
C'est ça que tu as besoin, donc vas-y. Il y a des gens qui ont besoin de croire, d'avoir des preuves. D'autres, juste une lecture qu'un ami. Comme l'exemple Gideon, il a besoin de croire trois tests pour vraiment croire. Et Jésus ne juge pas. Chacun est différent.
Il y a un mot que tu as dit plusieurs fois, Marina, c'est digne. Est-ce que je suis digne? Je crois que c'est la première chose que Satan met dans le cœur de même celui qui veut se rapprocher de Dieu. Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu crois que vraiment, avec ce que tu as fait dans ta vie d'avant? Ouh, ça fait longtemps. Et tout ça, si on arrive à se mettre dans l'esprit que c'est pas Dieu qui met ça dans nos cœurs, mais à partir du moment où qu'il faut une espèce de dignité pour se rapprocher de Dieu, ou s'approcher de la table, de la scène, etc., Jésus nous dit tout le contraire. Il nous dit, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous êtes au fond, c'est parce que vous êtes là qu'il faut s'en approcher. Ouais. C'est justement là. Donc, arrêtons de croire qu'il faut retrouver une dignité pour se réapprocher de Jésus, parce qu'alors lui, dans le cas de Thomas, la dignité, comme on disait, il aurait peut-être préféré qu'il dise, qui m'oublie et que je reste dans un coin, qui ne me voie pas. Mais non, Jésus, déjà, il apporte, j'aime beaucoup sa phrase, il en dit qu'une, il dit que la paix soit avec nous, que la paix soit avec vous. Et c'est valable pour tout le monde et c'est valable pour Thomas aussi. Donc, on a besoin d'avoir, je pense, cette paix que Jésus seul peut apporter et se débarrasser de cette idée de il faut mériter.
C'est ça.
Il faut que je sois digne. Il faut, au contraire, comme tu disais, pouvoir avoir peut-être, pour ne pas avoir de la culpabilité, avoir suffisamment, j'allais dire, d'humilité simplement se rapprocher de Jésus en disant je te laisse tout, mais comme c'est là, c'est là, moi je ne veux même pas intervenir, je veux que ce soit toi qui intervienne.
Et peut-être si jamais on entend cette voix là que l'ennemi souffle à nos oreilles, tu n'es pas digne, tu ne le mérites pas, peut-être juste le dire clairement, oui c'est vrai, je ne suis pas digne, je ne le mérite pas, mais Jésus l'a fait pour moi.
C'est ça.
Et c'est ça la grâce d'ailleurs. Je ne mérite pas, mais il le fait pour moi, je l'accepte et je veux aller de l'avant.
Et si on voit toute l'histoire de Jésus, il accepte les gens comme ils sont. Donc Marie, Madeleine, tout le monde, il ne demande pas de changer tout de suite, il dit viens, d'abord viens. Après on va faire le chemin ensemble et on va changer parce que compte avec moi, on change.
C'est
on est obligé de changer.
Exactement.
Mais Dieu accepte vraiment n'importe quel état qu'on est. Viens. Viens d'abord. Ensuite, on regarde.
Bien sûr.
Ouais, et Dieu, Jésus, il ne cherche, d'après ce que j'ai compris, il aime bien la sincérité. Et donc, dès le moment où on est sincère, qu'on le dise, et d'ailleurs, c'est le cas de Thomas, mais je trouve incroyable qu'il dise clairement... Ben voilà, je ne crois pas. Je le crois seulement si je touche. Ben, il était plus que sincère, là. Et ça peut être aussi appliqué à nous aujourd'hui. Qu'on puisse faire le point de notre vie et de dire, ben voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne crois pas du tout qu'on pourra réparer tout ça, mais je crois en toi, Jésus. Je sais que toi, tu as le pouvoir de le faire.
Mm-hmm. Et puis, on cherche quelquefois à se dire, voilà, le décrochage spirituel, c'est peut-être, comme Sophie nous l'a dit tout à l'heure, un éloignement de Dieu avec des péchés gros comme des maisons. Et quelquefois, on ne regarde pas que nous-mêmes, on est en train de décrocher spirituellement simplement parce que ben, je suis moins sur la lecture de ma Bible, mm-hmm. finalement, ou ben, là, j'étais un petit peu moins avec Dieu, ou là, dans mes attitudes, mes propos, mais moi, je suis pas top top non plus. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrête de chercher le gros péché par rapport au petit péché, ou alors bon, là, je suis vraiment éloignée de Dieu ou pas. Je peux y être tous les sabbats matins à l'église, et puis dans ma semaine, être un peu plus éloignée de Dieu aussi. Donc, je pense que c'est valable pour chacun de nous. On est tous un peu des Thomas. C'est pour ça que je revenais là-dessus en se disant, on a tous des moments comme ça de décrochage, qui soient plus ou moins importants. Mais le plus important, je crois que c'est aussi ce que disait Sophie, c'est la petite voix qui reste. Quand on a connu Jésus enfant, ou quand on a expérimenté Jésus même dans sa petite enfance, et que on peut décrocher adolescent, quoi. Donc on n'a encore pas vécu une vie entière, mais voilà. Mais cette petite voix qui est là, moi ça me fait toujours penser à l'image, vous savez, qu'on puisse être des barques comme ça, ancrées à Jésus. Et puis ben, quand la barque s'éloigne comme ça, à un moment la corde se tend, vous savez. Mm-hmm. Et puis quand elle se tend, ben, la barque elle revient vers l'ancre. Et je trouve que c'est une belle image de ce que Jésus peut être, il est tout le temps là, l'encre elle est tout le temps au même endroit. Ouais. C'est simplement que le fait que nous puissions nous éloigner, plus ou moins, eh bien c'est jamais terminé vis-à-vis de Jésus. Il y a toujours cette corde qui se tend et qui ramène.
Excellent.
Belle image, merci. Voilà.
Alors, cher auditeur, si jamais tu as pris le mauvais chemin, arrête-toi, réfléchis, reviens en arrière, demande pardon, humilie-toi et si nécessaire, pleure un bon coup. Et va de l'avant avec Jésus, parce qu'il est toujours là, il est toujours prêt à te pardonner.
Bienvenue dans la chronique Dieu dans les arts. Alors ici, on vous partage tout ce qui concerne les arts et qui est dans la thématique de notre culte du jour. Les arts, c'est vaste. Hein. On vous a déjà parlé de cinéma, de littérature, tout ce qui est poésie, livres, bédéistes aussi, des chanteurs, des arts visuels, les tableaux par exemple.
On cherche partout quand même. Hein?
Ah ouais. Du rap, des arts de la scène, comme la danse. Bref, on vous traite aux petits oignons, comme on le dit si bien. Et pour aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le cinéma. En 2006, j'ai vu un film qui m'a bien impacté. Oui, je vous parle d'un film qui n'est pas du tout récent, j'en suis navrée, il a plus de 15 ans, mais il me marque encore et j'y repense assez souvent. Je l'ai regardé parce que l'acteur principal était un musicien chrétien que je suivais beaucoup, Michael W. Smith. Et ce film a pour titre Second Chance, deuxième chance. Il existe en version originale, sous-titré français. Il a été réalisé par le musicien Steve Taylor et il a remporté notamment le prix du meilleur long métrage dans un festival de films chrétiens aux États-Unis, dont je tairai le nom parce que je ne parle pas du tout l'anglais. Et Amandine n'est pas là aujourd'hui pour nous
Amandine
faire une super démonstration de son accent anglais impeccable et efficace, tant pis. Enfin, Seconde Chance nous raconte l'histoire de deux pasteurs américains, un noir, Jeff Carr, et un blanc, Michael W. Smith, issus de deux églises qui sont fondamentalement différentes. La première, toute petite congrégation, mais des fidèles réguliers, concernés. Une église qui est dédiée au soutien de la population locale dans le quartier le plus pauvre de la ville. Une population qui n'a pas les moyens et où la violence est constante. Alors, cette église propose des repas gratuits, le soutien auprès des jeunes délinquants, des programmes pour aider les jeunes prostituées à amorcer un changement de vie, etc. Enfin, de manière très impliquée dans la vie locale. Et le pasteur est un homme humble, passionné, dédié au service de la population et de ses membres d'église avec un amour puissant et inconditionnel. C'est une très belle leçon.
C'est l'église exemplaire, là.
Ça semble une église exemplaire, ouais.
Et la deuxième,
petite
alors
église. La seconde église, The Rock. Le Rock. Alors, c'est un style méga-church, hein. Énorme église, elle est constituée d'une foule de membres, une église de blancs, hein, quelque part, qui a les moyens parce qu'ils proviennent évidemment des quartiers plutôt chics de la ville. Alors ça fait très très cliché, mais attendez la suite quand même. Et donc un important dispositif publicitaire, médiatique est développé dans la ville. Le pasteur est un homme réputé, on vient voir ses prêches. La louange est puissante, électrique, grâce à ce chanteur Michael Smith. Des gros moyens techniques sont développés. L'argent n'est vraiment pas un problème pour cette église.
On voit ça.
Et il y a surtout ce fils de pasteur, Michael Smith, chanteur, compositeur, qui parcourt en fait les États-Unis et qui s'apprête à reprendre l'église de papa. Et oui, parce que ça se fait beaucoup aux États-Unis. Hein. Mmh. C'est des églises qui se
ça
transmettent
de père en fils.
Père en fils, c'est ça. Et comment ces deux mondes vont se côtoyer, se confronter? C'est vrai qu'au départ, on se dit, mais quel est le lien? On ne comprend pas tout à fait. Il y a quand même une problématique. Eh bien, le papa de Michael, c'est un homme qui est sage, qui est pasteur. Et il voit que son fils n'est pas prêt du tout, en fait, à la succession, à la tête de cette église. Et ça le peine beaucoup. Mais il n'est pas le seul. Le conseil de l'église de Rock, n'aime pas non plus l'attitude de Michael parce qu'ils craignent, en fait, pour cette succession, d'avoir un pasteur-chanteur. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à l'église si ce n'est son ego surdimensionné? Ce fils à papa est effectivement hautain, sûr de lui, trop centré sur lui, peu conciliant. Enfin bref, perspective mitigée, on va dire, pour la reprise de l'église de papa. Et donc, le conseil d'église va pousser le pasteur en partance, donc le papa, à demander à son fils de rejoindre pour un temps de stage, la petite église sœur.
Ah, bien sûr.
Cette église de quartier chaud, cette église de noir, quelque part. Et là, déjà, on a aussi ces clichés entre les noirs et les blancs. C'est très compliqué. Et un objectif est posé. Tout simplement, observe and learn. Observe et apprends.
Et apprends.
C'est
voilà.
Tout.
Fais un petit stage.
Et Michael Smith y va. Alors, ça devient presque comique parce qu'on y voit tous les clichés. Évidemment, riche, pauvre, Michael Smith arrivant avec sa grosse berline dans un quartier insécure. Mmh. Il n'a pas confiance, il se méfie, il a des grands préjugés sur les Noirs. Et à l'inverse aussi, on se méfie de lui, le blanc, qui vit aisément alors qu'on est face à un quartier qui est en lutte pour sa survie, finalement. Et Jeff Carr, qui joue le pasteur de cette petite congrégation, va l'accueillir avec une énorme méfiance également parce que il le connaît déjà de réputation, ce fils à papa. Et Jeff Carr, qui joue le pasteur de cette petite congrégation, va l'accueillir avec une très grande méfiance aussi parce qu'il le connaît de réputation. Pour lui, Michael est définitivement incapable de changer. Mais il obéit et il lui montre son quotidien rude, choquant, défiant pour un blanc qui n'a jamais quitté ses quartiers chics en fait. Hein. Et c'est un bouleversement qui se fait petit à petit. Un changement de regard, un changement d'attitude. Et le retour quotidien à la fin de son travail dans ses quartiers chics, qui commence gentiment à titiller notre Michael. Deux mondes qui se confrontent, deux mondes tellement différents. Comment se positionner? Deux réalités. Où et comment veut-il se situer? Alors ce film Seconde Chance nous montre qu'une deuxième chance est possible. Ça prend son temps. C'est vrai, ça survient parfois dans des zones inattendues, alors qu'on n'espérait plus du tout, alors qu'on avait définitivement classé l'autre dans la case « ne changera jamais ». Eh bien, le changement, comme on l'a dit tout au long de notre culte aujourd'hui, le changement existe. Et avec Dieu, tout est possible. C'est la Bible qui le dit. Et j'aime cette idée que nous partageons depuis le début de ce culte. Hein. J'ai décroché, j'ai abandonné la partie, j'ai lâché prise. Mais c'est possible de décrocher, c'est possible de changer de route. Avec Dieu, la rédemption est toujours possible. Et ça, c'est une merveilleuse espérance.
Dieu nous demande d'ouvrir notre cœur, de parler avec lui. Dieu nous invite à le faire dans tous les moments de notre vie. Prions.
Oui, Seigneur, notre Dieu, à l'image de Thomas, nous sommes souvent décrocheurs. Oh, pas forcément nous éloignant très loin de toi, mais peut-être décrocheurs parce que nos vies, notre rythme peut-être aussi est difficile et lourd et chargé. Nos vies sont chargées, Seigneur. Nous avons besoin de nous accrocher à toi tous les jours, même un petit peu, mais que ça reste vraiment toi près de nous, toi proche de nos cœurs, proche de nos pensées, de nos paroles, pour être celui qui parle à travers nous, à notre voisin, à notre collègue de travail, justement. Merci Seigneur, parce que tu nous invites à être proche de toi, à nous rapprocher de toi, même quand nous nous en sommes éloignés. Mais voilà, à l'image de cette barque qui peut dériver un peu, Seigneur, nous savons que toi, tu es là, solide, et que la corde peut se tendre à tout moment pour nous ramener vers toi. Alors, bon Père, je voudrais te prier ce matin pour voilà, l'auditeur ou l'auditrice qui est là et qui se dit peut-être que je me suis éloignée un petit peu. Peut-être que la corde est plus longue que ce que je pensais, ça fait longtemps maintenant. Ou peut-être que non, c'est il y a juste quelques temps, mais voilà, je voudrais simplement que tu puisses savoir que ton Dieu t'aime, qu'il t'aimera toujours, qu'il intercède auprès de son Père pour chacun d'entre nous, jour après jour, qu'il donne des secondes chances et des secondes chances, encore et encore, Seigneur.
Amen.
Pour un peu, que son cœur te voit revenir vers lui, Seigneur, comme Thomas. Merci, mon Dieu, d'être ce Dieu qui aime tant, qui aime tellement que tu nous invites à revenir chaque fois. Tu ne nous juges pas, tu ne nous reproches rien, mais tu es en joie parce que tu as retrouvé une de tes brebis. Et nous voulons penser, Seigneur, aussi à toutes ces brebis qui ne te connaissent pas encore. Aide-nous à être ceux qui portent, à travers une aide, un soutien moral, spirituel, mais aussi peut-être physique, sur des services tout simplement, être proche des autres, parce que c'est comme ça que nous te faisons connaître, Seigneur. Alors, invite-nous en tout cas à ne pas passer à côté de petites choses telles que celles-ci, mais qui vont servir le cœur de ceux qui en ont besoin, Seigneur. Je te remets chaque auditeur entre tes mains, et puis que chacun puisse se tourner vers toi, et ne pas penser qu'il faille être digne ou mériter quoi que ce soit, mais simplement se dire « je pousse la porte parce que Jésus m'attend derrière ». Amen.
Amen.
Maintenant, c'est à vous de jouer, au moment de l'action.
Ah.
Tous les jours, nous devons faire des choix. Parfois, nous faisons le bon choix, d'autres pas. Parfois, on hésite même à se décider. On ne sait pas quoi faire. Comme nous avons pu l'entendre dans tout le culte aujourd'hui, Dieu veut qu'on aille vers lui. C'est son plus grand désir. Donc, pour cette semaine, je t'invite à réfléchir à quelque chose dans ta vie où tu t'es dit « c'est foutu » ou « j'ai fait les mauvais choix ». Laisse-toi l'occasion d'une seconde chance. Rien n'est perdu d'avance. Avec Dieu, ose aller de l'avant. N'hésite pas à le chercher. Il attend que ça, tu verras. Tu seras surpris par les choses que Dieu fera pour toi. Pourquoi attendre? Commence dès maintenant. À toi de jouer.
Ah, amen. Merci, j'ai envie d'être surprise aussi par Dieu sur ce point et je vais de suite expérimenter cette semaine. Merci Stéphane pour cette action que tu nous proposes de vivre. Merci aussi pour ta présence et ta participation active, Mildred. J'aimerais aussi remercier Edith pour ce temps de partage que tu as conduit. J'aime merci particulièrement voir ce qu'un texte biblique peut apporter finalement hein, comme piste de réflexion.
Ah, c'est incroyable.
Et notamment avec cette histoire, c'est vrai, hein, tu nous as permis d'ouvrir nos yeux sur quelque chose d'un peu différent et je te remercie. Je te remercie.
Merci à vous.
Je ne manque pas non plus de remercier Jérémy qui est derrière les consoles et sans qui rien ne pourrait se faire. D'ailleurs, nous avons quelque chose à fêter, Jérémy.
Tiens, 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 tiens.
Et nous allons le faire ensemble. Nous célébrons le 10e culte espoir. Alors, Mildred, je ne sais pas si tu te rends compte.
Le 10e ?
Quand Jérémy nous a proposé cette idée, il y a un petit moment quand même de culte, qui aurait imaginé qu'on aurait passé les caps des 100 cultes ? C'est incroyable.
Ouais.
Ouais, ouais.
100 cultes, c'est quand même pas mal.
Et ce sera la semaine prochaine. Moi, je rends gloire à Dieu pour les équipiers qu'il nous a joints. Et pour ce 100e culte, donc, on t'invite la semaine prochaine, chère auditrice, chère auditeur, pour un culte tout à fait spécial. Que cette semaine, en tout cas, qui s'ouvre devant toi, soit bénie, soit inspirante dans l'intervalle et que tu puisses expérimenter durant cette semaine cette deuxième chance que Dieu te donne pour oser vivre des choses peut-être différemment. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour ce culte espoir tout à fait spécial. Nous t'attendons. Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.